bienvenue dans la saison 4 de mon podcast. Moi, c'est Anouk, je suis professeure de yoga, une aventurière, et mon terrain d'exploration favori, c'est le monde intérieur. Je pense que, comme l'océan, c'est un univers riche et complexe. Dans ce podcast, que j'appelle aussi mon journal de bord, tu trouveras tous les mardis, dès 7h du matin, un nouvel épisode de moi ou de mes invités pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie, c'est-à-dire à rayonner dans tous les domaines et vivre ta meilleure vie. Pour recevoir plus d'informations et de partages, rendez-vous sur mon site internet anoukcoroller.com et inscris-toi à ma newsletter. Je suis hyper heureuse d'interviewer aujourd'hui la surfeuse, entrepreneuse et powerhouse Erika Drolet. Erika est canadienne et vit aujourd'hui une vie dont la plupart d'entre nous rêvent. Elle vit à côté de l'océan dans un pays tropical, a co-créé une entreprise pérenne et successful autour de ses passions comme le surf et le mouvement, et s'assure une liberté financière qui lui permet de répondre à tous ses désirs. Erika partage également sur les réseaux sociaux du contenu à la fois motivant, plein de compassion, coloré et super inspirant. She's a true leader and a queen, et je suis tellement heureuse de vous apporter, grâce au podcast, toute sa sagesse et ses précieux conseils. L'interview vous parlera particulièrement si vous êtes en reconversion professionnelle ou si vous comptez le faire, ou juste si vous abordez une transition dans votre vie. Et si vous avez, par exemple, envie de tourner plus de votre lifestyle autour de vos passions. Dans l'épisode, je demande à Erika d'où elle tire toute son énergie. Quelles sont les croyances positives ou les mantras qui l'ont aidé à construire sa vie de rêve? Le point de bascule qui l'a mené à vivre la vie qu'elle vit aujourd'hui? Elle nous partage aussi ses conseils pour mieux gérer nos finances et nous offrir plus de liberté. Elle parle de confiance en soi, de sortir de sa zone de confort avec des histoires hyper drôles. J'ai vraiment hâte que vous écoutiez tout ça. Et puis, elle nous parle également de surf, comment elle a commencé, comment elle s'est améliorée, and so much more. Ah oui, d'ailleurs, Erika et moi, on parle pas mal franglais dans l'épisode, donc j'ai mis toutes les traductions de ces petits partages dans la fenêtre de l'épisode. Guys, get ready for a shot of inspiration. Soyez prêts pour une dose d'inspiration. C'est parti pour l'interview de Erika Drolet. Bienvenue Erika sur le podcast. Je suis hyper, hyper contente de te recevoir. C'est une amie en commun finalement, c'est par cette amie en commun que je t'ai découvert et j'ai lu certains de tes posts, j'ai trouvé ça hyper inspirant. Et puis voilà, tu partages du contenu qui est coloré, qui donne de l'énergie, qui donne envie. Donc vraiment c'est un grand cadeau de te recevoir, merci beaucoup.
Merci beaucoup de m'avoir.
Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter?
Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Erika Drolet et je suis la cofondatrice de Salty Souls Experience ainsi que du Salty Club. Donc, je suis d'origine québécoise, comme vous pouvez facilement l'entendre dans mon accent. Et outre ça, en fait, j'habite en Amérique latine la majorité de l'année. Et voilà, le reste à découvrir dans le reste de l'épisode.
Quelque chose qui m'a vraiment marqué sur ton compte Insta, c'est toute l'énergie que tu dégages. Genre, on n'a pas fait de sport de la journée, on est un peu down, on regarde ton profil et ça nous donne envie de nous lever et de faire quelque chose. D'où est-ce que tu tires toute cette énergie? Est-ce que tu as toujours été comme ça ou est-ce que tu as mis des choses dans ta vie en place pour avoir cette énergie?
J'adore que tu dis ça. En fait, j'espère que c'est ça que mon Instagram transmet ou transpire, parce que je pense que ça me représente. Comment ai-je autant d'énergie? Je pense que j'ai toujours été une petite fille vraiment énergique, très sportive. En fait, j'ai dû faire de la compétition d'à peu près tous les sports possibles et imaginables. J'avais un grand frère, fait que aussi je faisais n'importe quoi que lui il faisait. Et oui, tu sais, le sport a toujours été très au centre de ma vie et encore aujourd'hui, puis je pense que c'est un des éléments clés qui donne de l'énergie. J'ai l'impression que le mouvement en général peu importe sa forme, ça devient un non négociable dans mon quotidien, de la même manière que je me brosse les dents ou que je me fais des œufs le matin. Comme il y a une heure de la journée ou il y a un moment de la journée qui va être dédié au mouvement, et c'est ça qui m'énergise beaucoup. Et j'aime mentionner ça surtout parce que je pense que quand on a des horaires très occupés, souvent la session d'entraînement ou l'heure qu'on irait normalement marcher ou s'entraîner, whatever, des fois c'est la première chose qu'on va effacer de l'horaire si notre journée est très pleine. Comme si on n'a pas le temps de s'autoriser l'activité physique, quand au contraire, je pense que de s'entraîner ou de bouger nous donne du temps, nous donne de l'énergie, à l'opposition de nous en enlever. Puis c'est ça qui nous permet d'être plus efficace dans notre journée, puis d'être plus énergique, puis d'être plus performant, si on peut dire, dans toutes les autres sphères, si on s'est donné le temps de bouger, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour. Donc, je pense que l'énergie vient beaucoup de ça. Ça fait vraiment partie de mon quotidien. J'habite ici en bord de l'océan, donc le surf est en grande partie, mais je cours beaucoup, je fais en fait encore comme un peu tous les sports, puis j'aime un peu le jeu de me lever puis me dire, bon, aujourd'hui, c'est quoi l'activité sportive que je vais faire? Et de bâtir le reste de ma journée un peu autour de ça, puis de m'assurer que je reste saine d'esprit grâce au mouvement.
Pourquoi, à ton avis, est-ce qu'on a tendance à éliminer ce temps de sport dans notre journée quand on a plein de choses à faire? Pourquoi est-ce que c'est la première chose qui va squeezer alors que c'est si important?
C'est une bonne question. En fait, je pense parce que ça nous demande quand même un effort supplémentaire de se lever puis d'aller le faire. Donc, tu sais, ça prend comme une minute là qu'on faut mettre les baskets, il faut mettre les shirts, il faut se botter les fesses un peu. Puis si on est déjà low en énergie, on se dit « Ah, oh, peut-être demain ». Mais en fait, je pense qu'une fois, si on a la discipline ou la force mentale de se donner, d'avoir la petite étincelle, une fois qu'on est parti, on se rend compte que comme on va jamais regretter d'être allé, mais on regrette toujours de pas être allé. Donc moi, j'essaie toujours de me rappeler ça. Il y a comme deux trucs que je me rappelle. Un, c'est comme « You always regret it when you don't, but you never regret it when you do ». Fait que ça, je me le dis quand je suis comme « Oh, je devrais y aller ». Je suis comme « Non, tu vas tellement être contente après ». Puis l'autre truc que je me dis, c'est la règle des 5 secondes. Quand t'es un peu comme lazy, t'es paresseux, puis c'est comme « Ah, oh, ça te tente pas », tu dis « OK, je compte jusqu'à 5 ». Puis j'y vais. Puis 1, 2, 3, 4, 5, go! Et tu le fais. Puis une fois que t'es parti, puis tu peux te dire « Ah, oh, OK, aujourd'hui, j'avais peut-être prévu faire une longue course, mais là, je sais pas, j'ai pas tant l'énergie. » Je vais aller faire 3 kilomètres. Puis à 3 kilomètres, si je suis vraiment tannée, j'en reviendrai. Mais là, une fois que t'es dedans, t'as commencé à 3, t'es comme « Ah, je pense correct. » Puis souvent, ça m'arrive que finalement, je suis rendue à 10 kilomètres, je suis comme « Ah, ça a bien été. » Donc, de juste commencer, puis des fois, ça peut être juste de mettre son habit de sport, puis ou de mettre son maillot de bain, ou de mettre whatever, de laisser son téléphone aussi, parce que ça, c'est un vortex énergétique. Puis une fois que tu pars, tu y vas, puis ça t'aère rapidement l'esprit. Mais ouais, je pense que la raison pour qu'on met souvent ça de côté, ça peut être soit parce que ça fait pas partie non négociable de son horaire. Tu sais, moi, j'essaie de comme planifier plus tôt dans la semaine, ça va être quoi mes activités physiques de la semaine, elles vont être où dans mon horaire, puis de pas négocier autour de ça. Tu sais, de la même manière que si t'as un meeting avec quelqu'un, un appel téléphonique à 9h mardi, ben à 9h mardi, t'es là, t'es sur l'appel. Ben, c'est la même chose, ma session de sport, ça va être, OK, ben, mardi, 8h, je vais au gym, ou je vais surfer, ou je vais au yoga, whatever. Il est là, comme un meeting avec moi-même. Donc ça, je pense que c'est une bonne manière de pas le faire sauter. Puis moi, j'ai toujours la règle d'or, c'est juste de pas négocier avec soi-même. C'est tellement facile de dire, ah, oh, un petit peu plus tard, ah, oh, mais demain, ah, oh, mais demain, je vais en faire 2. Non, mais demain, t'en feras pas 2, là. OK. Donc. Don't negotiate with yourself. Puis ça va devenir une habitude que ça te fait que c'est plus un effort, que c'est tellement inné pour toi d'aller faire ta session de sport que tu sais à quel point ça va être bénéfique, puis tu y prends plaisir, t'es excité. Pour moi, le moment où je vais jouer, je veux dire, que je vais dehors puis que je fais mon sport, c'est le meilleur moment de ma journée. Donc, pourquoi le négliger?
Trop bien. Merci pour ce partage. Et on voit déjà ta philosophie et ton mindset. Et je me demande si finalement, ces petits mindset tricks que tu as déjà partagés, ils t'ont permis aussi de créer la vie que tu vis, qui est une vie qui est, de mon point de vue, je pense, et de beaucoup de personnes qui te suivent, très inspirante, puisque tu vis par passion, tu vis par désir, tu vis par, par rêve. Et est-ce que tu as d'autres... Est-ce qu'il y a eu d'autres croyances positives ou des mantras ou d'autres outils que tu as utilisés pour construire cette vie-là autour du surf, autour de, voilà, de faire des retraites, d'être une des fondatrices du Salty Club? Est-ce qu'il y a eu d'autres outils que tu peux partager, que tu as utilisés pour créer cette vie extraordinaire?
Une de mes phrases préférées, c'est celle de Albert Camus qui dit « The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your own existence is an act of rebellion. » C'est une phrase qui m'a marquée très tôt dans la vie. Je me rappelle avoir été sur une île, une mini-île en Indonésie. On avait dormi sous les étoiles, puis je me suis réveillée avec la vue incroyable, puis il y a eu comme un download qui m'a dit comme que mon mot-clé ou mon dharma, c'était « liberté, freedom ». Donc, par la suite, on dirait que c'est devenu, ça l'était déjà sûrement de façon innée, mais plus consciemment, une valeur clé de mon existence. Puis, plus tu marches dans ce chemin-là, puis plus tu deviens aussi un observateur de la société, de la manière standard que les choses fonctionnent, puis plus ou moins que tu adhères de moins en moins, évidemment. Et pour moi, de me dire que de suivre ce filon-là de liberté, ou qu'est-ce que ça voulait dire pour moi d'être libre, puis de vouloir me libérer des conditionnements, des shoulds, des manières traditionnelles, puis de croire que ça, de le faire pour moi, c'était ma manière de me rebeller par rapport à un système qui est contraignant, puis qui nous forge ou qui nous cadre, à mon avis, qui tue beaucoup de notre créativité. Ça a été la phrase que je me suis souvent rappelée, que comme si moi je me libérais, c'est ce qui allait aussi aider les gens qui gravitent autour de moi à se libérer aussi, puis que ça serait ça notre rébellion, en fait, une douce rébellion qui fait pas mal à personne.
Est-ce qu'il y a eu un moment aussi où tu as un peu changé de vie comme ça, ou est-ce que tu as toujours eu cette vision de vivre proche de l'océan, ou est-ce que dans ton parcours, il y a eu vraiment un espèce de turning point?
Il y a eu un turning point, donc... Ma première business, en fait, début vingtaine, j'avais une compagnie de bijoux que j'avais cofondée avec une amie. Ben, à ce moment-là, j'étudiais en design graphique. Puis, en fait, on a eu cette idée-là de partir une compagnie de bijoux. Et ça l'a décollé super vite. On était rapidement dans toutes les surf and skate shops de la région. Puis, je me rappelle un moment clé. On est en train d'accessoiriser la semaine de la mode à Montréal. On avait déjà eu des parties dans des magazines et tout ça. Puis, tu sais, j'ai 23, 24 ans à ce moment-là. Puis, je suis comme, waouh! À la base, je me disais, waouh, quelle vie! Tu sais, je suis en mode. Puis, c'est un monde qui est de la mode. C'est créatif, c'est vibrant. Évidemment, quand t'es une jeune femme, c'est comme un monde qui interpelle plusieurs jeunes femmes. Donc, pendant un instant, c'était comme, waouh, c'est vraiment incroyable être ici. Puis, ce moment clé-là, à la semaine de la mode, on est backstage. Puis, quand les modèles rentrent puis changent d'outfit, on leur met des nouveaux bijoux et tout ça. Et à un moment donné, on dirait que tout s'est mis à aller en slow-mo. Puis parce que ma business partner, elle m'avait dit « Eri, je peux pas croire qu'on est ici, genre c'est fou, on est en train d'accessoiriser la semaine de la mode, genre nanana. » Puis pour moi, ça s'est arrêté, puis je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais ici? » Comme il y a eu un moment de clic et je me suis dit « C'est vraiment pas mon univers, dans le fond. Comme moi, j'ai pas envie d'être en mode, j'ai pas envie de convaincre les gens d'acheter plus de produits physiques, puis de leur dire comme, oui, tu dois absolument acquérir ce nouveau bijou-là qui va donc te donner plus de valeur personnelle. Comme on dirait que je me suis rendu compte du conflit qu'il y avait entre le type de vie ou mes valeurs et le produit que je vendais, puis l'univers qui venait avec ça. Donc, par la suite, j'en suis venue à la conclusion que je devais quitter cette entreprise-là, que je devais vendre ma compagnie. Je voulais pas qu'elle meure, dans le fond. Je voulais pas que la compagnie arrête, mais moi, je voulais plus en faire partie. Puis ça, c'était un moment important parce que de la même manière que tu sais pas trop comment partir une compagnie à 22 ans, tu sais pas comment vendre une compagnie à 24 non plus. J'étais comme, à qui je le dis que je le vends? Est-ce que je mets une publication sur Facebook, compagnie à vendre? Genre, comment ça marche? Fait que, mais pour moi, la vision était claire que je voulais partir avec un one-way ticket pour l'Indonésie. C'est la seule affaire que je voulais. Je dis, je veux partir avec mon billet aller simple et qu'il n'y ait rien qui m'attende devant, qu'il n'y ait rien qui me retienne derrière, puis je reviendrai quand le temps sera bon. Ouais. Donc, pour ça, il fallait que je me libère de la compagnie, que je vende mes trucs et tout ça. J'ai acheté mon billet dans comme 5 mois. Puis je me suis dit, bon, je vais partir le 14 juillet. Puis il faut que je m'arrange pour avoir vendu la compagnie puis m'avoir défait de tous mes avoirs. I need to figure it out. et comme de fait, puis c'est ça, c'est la seule certitude que j'avais. C'était le désir de partir sur ce voyage-là. Le reste, fallait encore que ça se dessine. On va suivre la seule certitude. Donc, je me suis accrochée à ça. Puis finalement, de fil en aiguille, comme de fait, j'ai vendu mes parts de la compagnie à une de nos employées. J'ai vendu... Ben, j'avais pas beaucoup d'avoir à ce moment-là. Là. J'avais comme un vélo puis une coupe d'assiettes que mes parents m'avaient donné pour mon premier appartement. Là, comme j'étais en début vingtaine, j'avais pas tant de trucs, mais comme mon auto, mon vélo, puis c'était pas pour ça. Et je suis montée dans cet avion avec, à ce moment-là, comme j'avais vendu la compagnie pour 20 000 $ qui me semblait tellement d'argent. J'étais comme, j'ai assez d'argent pour le reste de ma vie. On part. Donc, et je suis dans l'avion ce jour-là. Je me rappelle, l'agent de bord, elle vient me voir, puis comme, oui, bonjour, vous aimeriez avoir quelque chose à boire? Je suis genre, oui, champagne! Puis comme 9 heures du matin. Mais pour moi, c'est comme un jour tellement important, puis j'ai l'impression que mon cœur va exploser à 1 million de confettis. J'avais l'impression de renaître en tant qu'adulte, parce que tout d'un coup, j'avais un coussin financier qui me donnait la clé des champs et plus d'obligations derrière. Et je partais vraiment déployer mes ailes puis découvrir qu'est-ce qui me faisait vibrer, moi, si je me déconditionnais de toutes les choses qu'on m'avait apprises jusqu'à ce moment-là, dans le sens que toutes les années qui sont obligatoires à l'école, on part d'une année en année, puis c'est comme on saute d'un cerceau à cerceau et on suit le chemin qui est dessiné déjà. Puis on nous demande pas vraiment comme est-ce que tu as le goût de continuer à aller à l'école, qu'est-ce que tu as le goût de faire, c'est comme voici le chemin, va jusqu'à l'université et après tu décideras bien ce que tu veux faire, tu sais. Mais on est très conditionné par notre environnement, par notre culture, par notre famille, par le pays dans lequel on est né, la langue qu'on parle, tu sais, c'est plein de conditionnements qu'on choisit pas, qui nous sont imposés par notre environnement. Et là, de partir à 24, c'était comme un moment conscient où je décidais de comme effacer le tableau ou de vider mon sac à dos qui était plein de trucs que d'autres gens avaient mis dans mon sac. Et là, de vider et de choisir consciemment qu'est-ce que moi, je voulais remettre dans le sac? Qu'est-ce qui m'appartenait? Qu'est-ce qui m'appartenait pas dans le fond? Que je suis comme, merci, ça m'a servi jusque-là. Mais moi, j'adhère pas à cette idéologie-là ou c'est pas quelque chose que je recherche pour ma vie personnelle. Et du coup, à travers ce voyage-là, de remplir mon sac à dos avec des nouvelles croyances, des nouvelles idées, des nouvelles inspirations que je choisissais d'adhérer en tant qu'adulte. Fait que ça a été vraiment le turning point, je dirais, puis comme, ouais, le décollage dans un monde plus alternatif ou un choix de vie plus alternatif. Puis, quand je suis arrivée en Indonésie, au début, je voyageais avec une très bonne amie. On était sur l'île de Bali. Et là, pour la première fois, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui étaient des expats, donc qui étaient pas balinais, évidemment, et qui vivaient sur l'île de Bali. Et là, révélation. Je me dis, il y en a qui vivent ici puis ils retournent jamais dans leur appartement à Montréal, comme ils sont pas juste ici en voyage là, c'est ça, ils habitent ici au paradis. J'ai comme moi aussi je veux ça. Puis maintenant ça me paraît plus clair que comme c'est quoi un expat ou quelqu'un qui justement qui est avec l'internet commence à évoluer, beaucoup de personnes qui travaillent de façon remote puis c'est plus accessible, mais on remonte il y a 10 ans, j'avais pas encore été exposée à cette réalité là que c'était possible de vraiment vivre à l'étranger dans un lieu paradisiaque. Suite à cette découverte, once you know, you can never unknow. Donc là, il y avait comme plus de c'était le point de non-retour. Puis je me rappelle avoir dit à ma meilleure amie à ce moment-là, j'ai une bonne puis une nouvelle, mauvaise nouvelle. J'ai dit, OK, c'est quoi? J'ai dit, la bonne nouvelle, c'est que j'adore notre voyage. C'est génial. Genre, j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. On faisait toutes les expériences qu'on vivait étaient tellement riches. Je dis, mais la mauvaise nouvelle, c'est que je pense pas qu'on va se voir beaucoup dans les prochaines années. Puis elle me dit, mais pourquoi? Je dis, je sais déjà que je reviendrai pas à Montréal. Puis comme de fait, 10 ans plus tard, je suis revenue comme on and off, mais je suis jamais retournée vivre à Montréal après ce moment-là. Donc, voilà.
Love it. Donc, on voit que tu es quelqu'un de très entrepreneuse aussi et depuis jeune finalement. Est-ce que tu peux nous parler de comment est-ce que tu as réussi à créer tes finances qui ont soutenu finalement tes voyages, ton lifestyle? Peut-être même, tu vois, depuis le début, qu'est-ce qui s'est passé après Bali finalement, une fois que les 20 000 euros se sont écoulés, comment est-ce que tu as fait?
Oui, donc la période transitoire entre la compagnie de bijoux et ma prochaine business que j'ai partie, j'ai fait un peu de marketing digital pour d'autres compagnies, qui est un skill tellement pratique. Puis c'est encore ma recommandation pour toutes les jeunes. Je me dis, développe des skills. Des compétences digitales parce que ça donne tellement de liberté puis ça te permet d'être très polyvalent dans plein d'aspects puis un peu pouvoir aider plein de business différentes. Donc, j'avais déjà ces capacités-là, fait que j'ai fait ça pendant un certain temps. Et par la suite, on a fondé, en fait, avec une autre de mes amies qui est aussi québécoise, Salt & Souls Experience. Donc, Salt & Souls offre des retraites de surf, skate, maintenant apnée même, yoga et développement personnel pour femmes. Donc, à ce jour, on opère dans 4 destinations, El Salvador, Équateur, Philippines, Bali. Mais évidemment, le projet a parti comme plus petit, puis on a commencé à opérer au Salvador. Donc, on a parti ce projet-là de retraite physique, qui déjà, quand j'y repense, très ambitieux, parce que la plupart des gens, quand ils lancent un projet de retraite, ils en lancent une. Puis ils disent, voici nos dates pour cette année, venez à notre retraite. Moi, je me rappelle, on a lancé 4 dates. Puis, fait que des gens étaient comme, on fera pas une retraite, nous faisons des retraites. Alors, c'est ça le projet. Et ça s'est booké comme overnight. Je me rappelle qu'il y avait 40 spots disponibles, 4 retraites de 10 personnes. Puis le premier matin, après qu'on a lancé, on se réveille, puis il y a 70 applications. Puis on est comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On sait maintenant qu'il n'y a pas tout le monde qui applique Book, mais quand même, c'était considérable pour une première édition. Donc, Salty Souls Experience est le projet maître et principal. Donc, c'était en 2015. L'année prochaine, Salty Souls aura 10 ans, qui est quand même considérable quand on pense que la majorité des business échouent après 5 ans. Donc, je suis contente qu'on ait passé ce cap-là. Et j'ai réussi à vivre de Salty Souls. On a réussi à vivre, ma partenaire s'appelle Marie-Christine Amiotte, dès la première année. Parce que c'est un modèle qui est quand même profitable par le fait que les gens évidemment, paie pour le service, paie en amont et tu as ce budget-là disponible pour offrir l'expérience, mais il n'y a pas beaucoup d'investissements de base qui doivent être faits parce que tu loues l'espace dans lequel tu runs les retraites, puis après ça, il y a toutes les dépenses à destination. Mais si je veux dire, en comparé d'un produit physique, il faut que tu achètes la marchandise avant même de l'avoir vendue, ou si tu ouvres un espace physique, tu as à équiper l'espace physique, ainsi qu'avoir un loyer avant même que tu ailles commencer à vendre, etc. Fait que dans le cadre d'un service comme ça, c'est quand même facile parce qu'il n'y a pas de... Tu reçois l'argent des gens avant de la dépenser à quelque part. Fait que ça a été profitable dès la première année. Et encore à ce jour, c'est ma source de revenus principale, ces retraites-là. On fait environ en 10 et 15 retraites par année. Et en parallèle, on a parti aussi le Salty Club, qui est une plateforme digitale disponible sur desktop ainsi que sur iPhone ou Android, donc une app à proprement dit. Ici, nous offrons des entraînements inspirés du surf, du yoga, de la nutrition, des workshops. On a aussi un podcast. Donc, c'est vraiment une plateforme qui offre différents produits digitaux, qui permet aux adeptes de sport de planche et de voyage de pouvoir s'entraîner et optimiser leur santé physique et mentale de n'importe où dans le monde. Donc ça, c'est aussi un de nos produits parallèles qui fonctionne super bien, soit pour les filles qui viennent faire l'expérience physique et qui ont le goût de continuer à explorer, grandir, évoluer avec nous, ou pour les gens qui sont membres de la communauté, qui aiment l'idéologie de Salty, qui se retrouvent dans ce regroupement de femmes qui aiment les sports de planche. mais qui n'ont pas nécessairement les sous pour venir faire une expérience physique à proprement dit à l'autre bout du monde. Donc, le price point du Salty Club à 20$ par mois est beaucoup plus accessible qu'un voyage à l'autre bout du monde. Donc, ça, c'est mes deux sources de revenus principales puis mes deux projets forts. Mais en parallèle, j'ai plein d'autres sources de revenus. Entre autres, je dirais que ma principale, c'est que j'ai aussi des propriétés au Salvador, dont une maison que j'ai construite. J'ai acheté un terrain, construit une maison qui est devenue une propriété de location sur Airbnb. Airbnb est un très bon business, spécialement dans une destination tropicale en croissance. Donc, ça s'est avéré être un business incroyable. Airbnb, super rentable. Donc, je fais ça aussi, je manage mon Airbnb et je offre aussi du mentorat coaching, business et life coaching à différentes jeunes femmes qui sont sur le chemin de l'épanouissement.
Trop bien, merci pour tous ces partages et je pense que c'est quelque chose qu'on partage puisqu'on en a parlé un petit peu hors recording aussi, mais c'est le fait d'avoir vraiment différentes sources de revenus qui est super important. Moi, dans mes formations, j'aime bien dire que c'est comme si on avait un jardin en permaculture. Si on a genre les tomates une année qui prennent pas très bien, bah c'est pas grave, on peut manger autre chose. Au lieu d'avoir juste one source of income, si ça s'écroule, bah en fait, t'as rien d'autre. Et ça, je pense que c'est super important et on en parlait aussi, mais c'est tellement important en tant que femme. En fait, pour moi, c'est presque ça qui fait la différence entre on est une petite fille ou maintenant on est une femme, c'est qu'on a ce pouvoir financier, en fait, qui est hyper important. Et ouais, merci d'avoir partagé tout ça.
J'adore, j'avais jamais pensé à l'exemple de la permaculture, mais j'adore, puis c'est vraiment ça. C'est que si pas tous tes business ou tes idées vont fonctionner, puis si t'es juste dépendante de un, ça crée beaucoup de stress, évidemment, et aussi facilement un sentiment d'échec. Tu sais, même avec les retraites, on a lancé plein de programmes variés, on a même essayé un certain temps des programmes pour hommes. Ça serait faux de dire que tout a été un succès. Tu sais, ça l'arrive que moi, j'aimerais ça, en fait, avoir un podcast ou ou faire une série sur toutes les idées, les moments de business où ça n'a pas marché. Parce qu'on n'en parle pas. On parle beaucoup des succès, comme « waouh, ça, tu sais, ça a super bien été ». Il y a tellement de choses que tu fais en affaires que tu travailles super fort, tu lances, puis là, criquet, personne l'achète. Puis toi, tu t'es dit « mais ce programme-là, était incroyable ». Hello! T'es tellement contente que finalement, tu le lances. Puis en plus, on sait, un lancement, c'est tellement intense. Là, les jours menant à un lancement, c'est comme un vortex. Puis comme tu fais juste ça. Puis là, t'es là, OK, world, voici mon nouveau produit. Et là, ah, deux ventes. Quoi? Non, mais ça se peut pas. Ça va être l'algorithme, je sais pas. Mais bref, ça pour dire que ça fait partie de la réalité qu'il y a des trucs qui fonctionnent moins bien. Puis... tu sais, même tu le vois dans des produits physiques, on a une petite collection de vêtements aussi avec Santé, mais tu peux designer 10 chandails, puis il y en a un ou deux que toi, tu te dis, ah, hey, eux, là, c'est les plus beaux. Ça va être les gros vendeurs. On en fait deux fois plus de ceux-là. Finalement, tu le lances, et c'est pas du tout ce produit-là qui brille. C'est comme, ah, you never know. Donc, fait que, tu sais, il faut oser mettre de l'avant plusieurs produits, plusieurs programmes, pour un peu tester le marché. Puis la réalité, c'est qu'il y en a qui fonctionnera pas. Puis c'est pas la fin du monde. T'apprends de ça. Mais si justement, t'as diversifié tes sources de revenus, ben ça permet de mitiger le risque puis de dire, bon, j'ai perdu 20 000 ici, mais cet autre projet-là a fait 40 000, disons. OK, ben je suis quand même gagnante. Fait que, tu sais, puis c'est ça l'investissement. Comme j'ai investi, entre autres, j'ai beaucoup d'investissements en crypto. Le Salvador est un gros pays de Bitcoin, en fait. On peut payer tout en Bitcoin ici, fait que c'est comme un gros mouvement. Puis, dans les dernières années, il y a eu un immense crash du marché boursier et du marché de crypto-monnaie. Tout a crashé après la pandémie. Puis, il y a un moment que je me disais, ah, j'ai perdu 10 000 $ comme, ah. Puis après ça, je me dis, ah, mais ma maison, j'ai un terrain qui, dans les dernières années, a pris comme 4 fois sa valeur initiale. OK, mais j'ai gagné, tu sais. Puis, je me rappelle d'avoir demandé à mon père, je disais, pas à toi. T'as-tu déjà perdu de l'argent avec tes investissements? Puis il est juste parti à rire. Puis il dit, évidemment, si tu perds pas d'argent en investissement, c'est parce que t'as pas essayé. Puis ça m'a comme rassuré. Puis il dit, c'est ça la game. Il y a des investissements qui me fonctionnent super bien. Puis il y en a d'autres qui crashent. Puis tu dis, ah bon, en autant que j'ai encore de l'argent pour aller faire mon épicerie, je suis correct, tu vois. Donc, mais j'adore l'idée de ton allusion à la permaculture. Je pense que je vais la réutiliser dans le futur.
Carrément. Et justement, donc là, tu parles un petit peu du fait que dans l'entrepreneuriat, il y a forcément des fails. Est-ce qu'il y a des leçons là que tu as apprises dernièrement autour de l'entrepreneuriat, des choses que tu pourrais partager, où tu as eu des révélations, tu t'es dit « Ah bon, bah ok, ça je ferais différemment » ou « J'ai appris ça ». Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises dernièrement?
Dernièrement, je pense qu'on a focusé un peu sur le concept d'amplifier ce qui fonctionne. Donc, qui peut sembler à l'opposition de ce que je viens de dire, mais non, dans le sens que oui, on va essayer plein de choses, mais justement de pas s'en faire trop avec les choses qui fonctionnent pas, puis de devenir déprimé ou de tomber dans un loop de pensée négative quand il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis au contraire, de dire ok, ben ça m'a permis de tester le marché, de tester l'intérêt, et quand il y a des trucs qui fonctionnent vraiment bien, d'amplifier ces trucs-là. Parce qu'évidemment, quand tu diversifies tes sources ou ton offre, c'est un des défis, c'est comment que je continue à donner un peu de l'énergie à toutes les branches de mon business, toutes les tentacules que je manage à la fois. Tu sais, c'est sûr que quand, justement, tu vois quelque chose fonctionne moins bien, c'est pas la saison, ou bien, tu sais, il y a des changements politiques, on l'a vu avec la pandémie, comme toutes les choses qu'on pensait inimaginables se sont produites. Donc, on sait pas, il y a des choses qui sont pas en notre pouvoir dans la vie aussi. Mais quand, tu sais, par exemple, nous, justement, avec la pandémie, on s'entend, l'agence de voyage a complètement s'est écroulée. Là, pendant 2 ans, aucun business sur la compagnie de voyage. Mais l'app a vraiment décollé. C'est là, c'était le temps de que tout ce qui était digital puis l'entraînement en ligne s'est vraiment démocratisé. On a normalisé l'entraînement en ligne, ce qui a été incroyable pour ce côté-là du business. Donc, tout d'un coup, boum, amplifier ça. On a tout shifté nos ressources énergétiques et financières sur cet aspect-là. Puis encore, ça, c'est comme, mettons, au point de vue comme plus macro, mais à l'intérieur de la business, juste même à l'intérieur du club, on offre plein de choses. Il y a des entraînements inspirés du surf, il y a un bon éventail de types d'entraînements. On a du yoga, on a de la nutrition, on a des podcasts, il y a plein de programmes différents. Donc, même à l'intérieur de l'écosystème de cette compagnie-là, on est toujours en train d'observer qu'est-ce qui est plus populaire, qu'est-ce qui l'est pas. Si on observe que, bon, le côté alimentaire de la plateforme, c'est pas ça qui a le plus de clics. C'est pas ça qui a le plus d'intérêt. Les gens, ils viennent plus pour les entraînements qui les préparent pour un surf trip, par exemple. On a remarqué que le côté entraînement physique était comme le plus visionné de la plateforme. OK, ben, même si moi, je trippe sur la nourriture, disons, là, je vais me dire, OK, peut-être qu'il y a assez de contenu pour l'intérêt qu'il y a sur cet aspect-là, parce qu'en réalité, c'est du contenu alimentaire. Il y en a plein de gratuits sur l'Internet. On va amplifier le contenu qui fonctionne bien, puis on va vraiment créer des nouveaux programmes qui semblent aller chercher l'intérêt des gens et amplifier ce côté-là, puis pas s'accrocher à comme « Ouais, mais tu sais ça marche pas », puis pas le prendre personnel. T'sais, on a toutes des catégories aussi dans la business qu'on s'occupe. T'sais, moi, je gère plus justement l'entraînement, le mouvement. Après, il y en a une qui fait plus le développement personnel, il y en a une qui fait d'autres catégories, puis c'est pas personnel. T'sais, c'est pas parce que on voit qu'il y a un plus gros intérêt sur le côté entraînement, mais ça n'enlève en rien le crédit de mes compatriotes qui eux aussi donnent leur énergie. Puis c'est pas parce que ta section est moins populaire que t'es moins utile dans l'entreprise. C'est comme, on se rend compte que dans notre collectif, c'est ce côté-là qui fonctionne plus. Ben on unit nos ressources pour amplifier cet aspect-là.
OK. Ouais, puis du coup, j'entends aussi qu'il y a une certaine audite du business pour vraiment regarder vos nombres et être lucide par rapport à ça au lieu de juste naviguer un peu à l'aveuglette. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est important aussi pour les entrepreneuses qui parfois prennent pas cette partie business et purement de nombres et de chiffres, en fait.
Oui, c'est drôle parce qu'on m'a déjà demandé qu'est-ce qui est, selon moi, la différence entre l'entrepreneuriat au féminin et l'entrepreneuriat au masculin, disons. Et j'ai toujours dit, en fait, la différence, c'est que les filles, on fait de la business de façon intuitive. Puis les gars, ils sont vraiment plus sur les chiffres. Ils vont, tu sais, avoir je veux pas généraliser, mais on va généraliser pour le contexte, comme les plus data analysis, ils vont avoir des sheets, ils vont tout, tu sais, sortir les numéros. Puis les filles, on est comme, toi, tu penses ça vaut combien, ça? Ah, moi, je paierais environ ça! Puis, mais comme, Non, les filles, il faut regarder c'est quoi nos coûts, puis c'est quoi la marge de profit, puis comme, oh oui, ok, c'est vrai, il faudrait peut-être genre calculer un peu des trucs. Mais fait qu'on est très plus intuitif dans notre manière de faire la business, mais reste que je pense que c'est une beauté d'être femme puis de faire l'entrepreneur au féminin. Il faut continuer à suivre notre gut feeling, puis notre intuition, puis ce compas-là, mais quand même aussi de façon fréquente, regarder les chiffres, les analyser, puis avoir une idée. C'est sûr, ça nous guide, puis on peut pas se baser seulement là-dessus non plus. Je pense que ça peut tuer un peu le plaisir si ça devient une game très mathématique, puis ça peut un peu enlever l'âme de la business si on fait juste se focusser sur le côté chiffres et analytique. Pour certains, c'est trippant le côté chiffres puis analytique aussi. Dans le fond, à chacun son intérêt là-dessus. Puis ça peut être, si tu as quelqu'un dans la business qui est très à cheval sur ces chiffres-là, ça peut être très, 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 très aidant aussi. T'sais, nous, on le fait environ 4 fois par année qu'on va venir analyser puis regarder puis t'sais, c'était donner des repères parce que je pense que c'est souvent surprenant ce qu'on observe quand on regarde les chiffres. Ça nous donne des données qu'on se dit, ah, oh oui, les gens, ils préfèrent ça. Ah, je savais pas. Donc, parfait, on va continuer là-dedans. Puis, t'sais, à quelque part, on fait de la business pour nous, dans le sens que parce qu'on aime ça, puis on veut partager ce qui nous fait vibrer. Mais c'est aussi adéquat de pouvoir amplifier ce que notre public semble demander ou s'intéresser, puis souvent à notre grande surprise, en fait.
Ouais, carrément, c'est trop un bon conseil. Il y a pas mal de femmes qui nous écoutent qui sont au début de leur chemin entrepreneurial, qui galèrent un peu, qui ont plein de peurs, plein de confusions. Avant qu'on termine ce volet ensemble de notre conversation entrepreneuriale, est-ce que tu as d'autres conseils pour elles, un peu genre the sister advice pour ces femmes qui commencent?
Je crois que mon plus grand conseil, c'est d'avancer dans ses rêves, dans ses idées, avec la croyance intérieure que ça va fonctionner pour soi. Puis, je vais le dire en anglais, you need to go in life believing it's gonna work out for you. C'est évidemment une question de confiance. Une confiance personnelle, pour certains, c'est très inné, pour certaines, ça se construit. Mais quand tu prends des décisions, quand tu cognes à des portes, quand tu t'aventures et tu te lances dans des projets, il faut que tu crois que ça va marcher. Si toi, tu crois pas que ça va marcher, ça fonctionnera pas. Puis c'est pour ça que je dis que même en rétrospect, quand je regarde au début de Santé, puis qu'on a lancé 4 retraites dès le début, je me dis, wow, c'était chevronné quand même comme idée. Mais je me rappelle d'avoir eu la conversation avec ma business partner, puis elle était comme, Iri, 4? Comme on en fait 4 déjà? Puis j'étais comme, oui, on va tout les remplir. Comme, c'est ça qu'on fait. Et j'avais la croyance forte à l'intérieur que comme, it's gonna work out for us. Tu sais, c'est la même chose quand même, je sais pas, tu veux approcher quelqu'un qui te plaît ou n'importe quoi, il faut que quelque chose dans ta tête te dise, ça va marcher, ça va marcher, ça va fonctionner, ça va fonctionner, ça va fonctionner, ça va fonctionner. Crois-y, puis c'est ça qui va t'aider à prendre des décisions qui ont la même énergie que celle que tu veux émaner. Versus si tu avances déjà, tu sais, on avance tout avec un petit sac de doute par-dessus nos épaules, évidemment, je dis pas que le doute n'existe pas. On apprend à vivre constamment avec un peu de doute qui nous chuchote des trucs dans l'oreille, mais de donner plus d'importance à la voix entre nous qui se dit, c'est peut-être un peu irréaliste, mais moi, je pense que ça va fonctionner. Voilà, c'est mon plus grand conseil.
J'adore, j'adore, j'adore. Ça m'a donné des goosebumps. J'ai quand même envie de te poser la question pour qu'on continue à creuser là-dedans parce que j'entends, genre, les femmes qui écoutent le podcast dire oui, mais Erika, comment on fait pour croire en soi? Comment on fait concrètement pour croire en son projet? Est-ce que t'as, je sais pas, une pratique de méditation? Est-ce que tu te répètes quelque chose, genre, the concrete tools for them?
C'est ma question. Je crois que cette confiance-là s'acquiert de manière très différente pour chacune. Moi, je crois que la grande partie de ma confiance, mais d'un, la confiance, ça s'additionne. Plus on essaie, plus on réussit, plus on croit en soi. Mais pour ça, il faut justement oser débuter. Puis ça peut, au début, c'est des petits steps. Puis, ah, ça a fonctionné. OK, je suis capable. OK, là, je vais prendre une plus grande step. Ah, OK, j'étais capable, ça aussi. Ah. Et là, on réussit à avoir la... On gagne en confiance, puis on prend des steps qui sont toujours plus grands parce qu'on a réussi avec les plus petits défis. Pour moi, je pense qu'une grande confiance est venue aussi de... à travers le sport, dans le sens que le sport non seulement me fait sentir forte physiquement, mais m'a habituée à rester calme dans l'inconfort, en fait, puis de choisir de me mettre volontairement dans des situations qui sont inconfortables et de réussir à m'en sortir, si on peut dire, ou de terminer l'entraînement, ou de terminer, me dire « Ah, je suis très capable, en fait. » Donc oui, le sport nous donne de la force physique, nous aide à développer des muscles et tout ça, nous fait sentir mieux dans notre corps. Mais pour moi, ça a été un outil qui me donne de la confiance mentale. Parce que je me lance des défis constamment avec le sport. J'ai participé à différentes compétitions, que ce soit amicales ou autres. Puis plus tu le fais, plus tu deviens témoin de tes propres capacités à entreprendre des challenges et à les terminer. Puis ça s'additionne vraiment, puis ça vient à avoir des répercussions dans tes choix professionnels aussi ou dans ton courage par rapport à essayer tout ce qui est un petit peu à l'extérieur de ta zone de confort. Donc, ça serait ça mon conseil, que ça des petits challenges. Puis tu sais, des fois, ça peut être même de commencer par « Ah, je vais essayer aujourd'hui de soutenir le regard de toutes les personnes avec qui j'ai un eye contact. » Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire au quotidien comme petit défi. Fait que se lancer des petits défis comme ça, puis essayer. Puis plus on essaie au quotidien des trucs qui sont un peu inconfortables, puis histoire drôle, mais c'est une anecdote qui me fait penser à ça. Quand, justement, un de mes voyages, je m'étais fait dire que mon frère qui m'avait raconté qu'il y avait lu un livre qui racontait que personne ne va jamais parler à la plus belle fille du bord. Parce que tout le monde se dit que tout le monde va aller parler à la plus belle fille, donc personne n'y va. Puis je me suis dit, c'est un peu la même chose avec les hommes. Dans le fond, comme, tu vois le vraiment beau gars, là, tu vas aller parler à son ami, genre. Parce que aller voir lui, c'est comme tu dis, oh, mais tout le monde va aller voir lui. Donc, là, l'antidote à ça, c'est que mon ami et moi, on s'était dit durant notre voyage, chaque fois qu'on va aller, dans un lieu public, mettons en soirée, on va devoir chacune identifier c'est qui le plus beau gars du bord selon nous et absolument aller y parler. Même si c'est juste 5 minutes, même si c'est 1 minute, même si tu dis juste allô, il faut que tu y ailles. Fait que pendant tout le mois, on a fait ça. Fait que c'était à chaque fois, c'est des petits comfort zone challenge. Et c'était vraiment intéressant d'observer que, d'un, elle et moi, on n'avait jamais la même idée de c'était qui le plus beau gars du bord. Donc, ça te donne une idée que comme ce qui est épeurant pour toi, ne l'est pas pour l'autre. Puis elle était comme, vraiment lui? Ah, dis-moi, ça serait tellement pas dur à aller parler. Puis, moi, j'ai les jambes molles, là. Ça, je vais être capable. Donc, puis elle, tu sais, comme, et vice-versa, parce qu'on n'avait pas les mêmes goûts. Donc, de un, tu dis, OK, tout est relatif au niveau de la grandeur de ce défi. Et de deux, plus tu y vas, plus tu te dis, ah, dans le fond, aller parler à quelqu'un, c'est quoi le pire qui peut arriver? Le pire qui va arriver, il va échanger 3 mots, puis il va comme un peu tourner son épaule, puis tu vas comprendre qu'il n'y a pas le goût de continuer la conversation, puis tu retournes voir ton ami, vous allez en rire, puis ça va être fini, tu sais. Donc, on a fait ça, puis et ça nous a donné aussi beaucoup de confiance au fait d'aller approcher des inconnus, puis de se rendre compte que it's really not as scary as it first seems. Puis je pense que pour plein de choses comme ça qui nous challenge, de faire le saut, on se rend compte que it was never as high as we first thought it was. T'sais? Puis c'est toujours ça, même si c'est de sauter dans une chute, puis t'es comme, oh mon Dieu, c'est tellement haut! Là, tu sautes, puis tu dis, ah, oh, finalement, c'était bien moins haut que je pensais. Donc, cette allusion-là, et je pense que ça s'applique à plein d'aspects de la vie, c'est comme, lean forward, and then just go. And you'll find out that it was not as scary as you first thought it was.
I love it. Thank you so much. Je pense aussi que quand on sent que quelqu'un a confiance en soi, que ce soit in relationships or in business, on peut vraiment le sentir et il y a quelque chose qui nous donne envie, en fait, qui rayonne de nous Et genre, c'est la base. Donc, je suis vraiment ouais, trop, trop contente d'avoir entendu ce conseil. Merci. On y reviendra aussi sur cette espèce de sensation de discomfort. Mais maintenant, j'aimerais passer à une espèce d'autre bulle conversationnelle. Déjà, donc il y a un point qui nous lie aussi, c'est que on pratique beaucoup le surf toutes les deux et puis on a une relation à l'océan qui est forte. Toi, tu as commencé à surfer quand? Est-ce que tu as toujours eu un bon niveau? Parce que franchement, je t'ai vu charger au Salvador, faire des turns de malade et je suis là, mais waouh! Et sinon, si tu n'as pas toujours eu ce niveau, comment est-ce que tu as fait pour en arriver là aujourd'hui? Il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent qui adorent l'océan et qui adorent surfer, donc c'est pour ça que j'avais envie de te poser cette question aussi.
Oui, absolument. Donc, je commencerai par dire que je suis née au Canada, à l'intérieur des terres. Donc, il y avait pas grand-chose qui me destinait à devenir une surfeuse. Rien, en fait. Et j'ai surfé pour la première fois lors d'un voyage en Australie à 19 ans. Mais ça a été, bon, quelques jours de surf, un petit petite mini-retraite, si on peut dire. Assez pour comme sparquer mon intérêt, mais sans plus. Et après, ça a été on and off pendant plusieurs années, comme une fois au Panama, une fois au Costa Rica, une fois, comme tu sais, quand j'allais en voyage, je louais une planche puis j'essayais de comprendre ce qui se passait. Commencer la courbe d'apprentissage du surf est très à pic. Puis si t'en fais juste de façon sporadique, une fois ici et là, il n'y a pas de progrès. En fait, tu passes ton temps à essayer de figure out comment le spot fonctionne, puis être dans ta tête à dire « je comprends pas, je vois-tu à gauche, je vois-tu à droite, je suis dans le chemin, je suis pas dans le chemin ». Ça a été ça pendant un certain temps. Et je dirais que j'ai vraiment commencé à prendre le surf plus sérieusement quand on a parti Salty Souls, donc j'avais 25 ans, parce que là, j'ai eu l'occasion de vivre ou de passer la majorité de l'année à côté de l'océan et de y aller de façon constante. Puis ça a été ça le déclic. C'était vraiment génial d'être entourée d'un groupe de filles aussi qui se fait. Ma business partner était déjà plus expérimentée que moi, donc c'était comme mon guide. Elle pouvait m'amener à différents endroits, m'expliquer ce que je savais pas. Puis ouais, c'était moi je voyais son niveau comme quelque chose d'accessible que je pouvais relate, tu sais, par rapport à si tu regardes t'es ton chum qui surfe super bien ou plein de gens, ton chum c'est ton copain, ton petit copain.
Merci.
Ou d'autres, tu sais, on regarde les pro surfeurs puis on se dit ah mais c'est tellement loin de moi ce niveau-là, j'y arriverai jamais. Donc ça a été à partir de ce moment-là, puis je me rappelle qu'il y a pendant un certain temps, tu sais, moi aussi j'enseigne le yoga, puis j'ai été c'était moi qui s'occupais de tout le volet yoga des retraites. Donc, pendant longtemps, je choisissais le yoga au-delà du surf, mettons, en matinée, quand c'était le temps de décider qu'est-ce que j'allais, à quoi je dédiais mon heure ou mes 2 heures de mouvement. Principalement parce que le yoga, c'était confortable, c'était ma zone que je connaissais, puis le surf, ça me demandait constamment de sortir de ma zone de confort, puis d'être débutante, là. Tu sais, d'être débutante en tant qu'adulte, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, surtout si, tu sais, moi, j'ai grandi à faire du snowboard. Je suis une bonne planchiste, puis j'avais l'impression que je me disais dans l'eau, si tous ces gens-là, ils pourraient me voir faire du snow, ils sauraient que je suis capable. Mais là, je suis dans l'eau, je suis en surf, je suis poche, I'm making a fool of myself. Mais comme, en tant qu'adulte, il faut que tu commences quelque part. Puis c'est normal qu'au début, tu vas être nul. Puis tu vas perdre ton maillot, puis tu vas perdre tes sens, puis t'as l'impression que tout le monde te regarde, make a fool of yourself. Ce que j'ai appris rapidement, c'est que personne se rappelle de toi qui wipe out. Tout le monde est tellement concerned par rapport à eux-mêmes qu'ils sont pas en train de dire « Hey, la fille, t'as-tu vu, ça fait 3 fois qu'elle tombe. » Comme non. Ils sont en train de compter combien de fois eux sont tombés ou ils sont en train de se focusser sur leur prochaine vague puis ils s'en foutent de toi, dans le fond. Mais c'est très, très, très mental, le surf. Puis il y a une grosse partie qu'on se dit « Ah, tout le monde me regarde être pas bonne. » Non, non, personne ne te regarde être pas bonne. Comme tout le monde s'en fout, honnêtement. Puis c'est très libérateur de se dire, non, nobody care about me. Like, tu sais, ça peut être triste comme réalisation ou ça peut être très libérateur, en fait. Donc, c'est ça, fait que j'ai commencé à 25 ans. Dans les dernières années, j'ai eu la chance de, justement, surfer certains des meilleurs endroits dans le monde puis de vraiment me dédier à cette pratique-là. Mais je pense que l'élément clé, c'est qu'à un certain moment, j'ai commencé à être constante dans mon choix d'aller surfer tous les jours, malgré les conditions changeantes, malgré un peu mes humeurs, malgré tout ça. Puis c'est la seule manière qu'il va y avoir une progression, c'est de vraiment y mettre du temps. C'est très long, ça demande beaucoup de patience. Et tu sais, beaucoup de sessions où tu y vas, et t'attrapes zéro vague, ou une vague, deux vagues, puis ton seul, tu sors en disant « Ah, au moins j'ai pas perdu ma dignité en sortant de l'eau. » Ou des fois je me dis « Ah, au moins rentrer à l'eau, ça a bien été aujourd'hui. » Comme de voir que, tu sais, plus tu surfes, plus tu te rends compte que la partie que tu surfes la vague, c'est tellement minime, et il y a tellement d'autres éléments à maîtriser. C'est fou. Fait que, tu sais, peut-être que tu peux commencer à focusser sur tous les autres aspects que tu as commencé à comprendre. Puis tu dis, OK, aujourd'hui, j'ai juste eu une vague, mais j'ai compris un peu mieux comment le spot fonctionnait. Ou, comme, tu sais, de se dire qu'il y a une compréhension générale de l'océan qui se bâtit. Et ça fait partie de l'ensemble du sport, bien au-delà de juste, ah, je me suis levée debout et j'ai réussi à faire 4 virages. Donc, mais ouais, j'ai appris vraiment en tant qu'adulte. Et tout notre groupe de filles ici, on a tout appris en tant qu'adulte. On a tout commencé dans la vingtaine. C'est vraiment cool avec Salty. Évidemment, on fait des retraites d'initiation au surf pour les femmes. Et on en a vraiment de tous les âges. Et j'adore le fait d'avoir plein de filles dans la trentaine qui viennent. C'est pas dans la quarantaine, même on a eu une femme de 65 ans qui est venue faire la retraite. Ils sont comme, je veux apprendre à surfer. Parfait. Puis il n'est jamais trop tard pour commencer. Puis c'est pas un sport qui est juste pour les jeunes. Puis c'est pas un sport qui est juste pour les gars. Ou tu sais, même on enseigne aussi le skate, le surf skate, dans le fond, dans les retraites. Puis c'est la même chose, comme il y a un skate park, c'est super intimidant, puis on a l'impression que c'est juste pour les jeunes gars, les jeunes hommes, genre les petits gars. Mais non, là, nous, on est une gang de filles dans trentaine au skate park. Puis je pense que c'est autant adapté à nous, puis ces sports-là de planche, je pense qu'ils nous reconnectent vraiment à notre côté, à notre playfulness. Puis le fait de pas essayer de performer tellement que d'avoir du plaisir, puis de se rendre compte que de tomber fait partie du sport. En fait, après chaque vague, tu tombes après chaque vague, tu te retrouves sur ton ventre et tu recommences de nouveau. Fait que je pense que ça a une belle corrélation avec la vie aussi, que c'est comme même tu vas avoir des moments grandioses, mais après ça, tu retournes sur le ventre, puis tu paddles, puis t'attends que la prochaine vague, elle arrive, puis tu te retombes, puis tu te relèves. Donc, je pense que ça nous apprend ça, le surf.
I love it. J'ai l'impression que je pourrais passer genre des heures à rebondir sur ce que tu es en train de dire. Il y a trop de choses qui me parlent. Déjà, le fait que c'est vrai, tout le monde is in their own head and nobody's looking at you. Et je pense que parfois, genre, on est là, on prend une vague et on est là, am I looking good? Est-ce que quelqu'un a vu cette vague? Et en fait, genre, nobody cares parce que tout le monde est dans soi-même en train de se dire la même chose. Donc, genre, fais-toi kiffer et drop it, tu vois. Et ça, c'est un truc que vraiment, je trouve, c'est important de se remettre dans le truc. Ça te permet de continuer, d'arrêter de te prendre la tête. Et ouais, et j'apprécie trop aussi, enfin voilà, le fait que oui, en effet, ça nous apprend à tomber et à nous relever et not to make a big deal of it et de continuer. Enfin, trop bien. Merci pour tous ces partages. J'ai trop hâte qu'on partage une session.
Oui.
J'espère que ça se fera. Est-ce que tu peux nous amener dans une journée avec toi? Alors, je sais qu'il n'y a généralement pas une journée qui se ressemble, mais voilà, est-ce qu'il y a des moments un peu de rituel dans ta journée, à partir de ton lever jusqu'à ton coucher? Est-ce que tu peux, voilà, nous amener dans cette vie avec toi?
Oui, avec plaisir. Donc, c'est intéressant parce que je crois que, comme tu dis, chaque journée est très différente dans mon mode de vie. Principalement modifiée ou changeante dépendamment où je suis dans le monde. Parce que si t'es en proximité de l'océan, le flow de la journée va être vraiment différent de si t'es dans les montagnes ou si t'es en ville, évidemment. Et j'aime ça, le fait que, puisque j'ai beaucoup de liberté, je passe beaucoup de temps dans différents environnements, ce qui modifie complètement mon flow de la journée. Mais je pense qu'il y a des éléments clés malgré tout. Le matin, j'essaie toujours de garder mon téléphone sur le mode avion ou sur ne pas déranger en me levant. C'est une discipline qu'on apprend tous à ne pas regarder notre téléphone en se levant. Mais c'est probablement un des des éléments qui vont avoir un plus gros effet sur ta journée, puis sur ton esprit, puis sur ton niveau de créativité. Puis je mentionne ça parce que c'est vraiment clé, en fait, parce que le matin, on se réveille, puis on est rechargé. Puis notre créativité est au maximum, la clarté de notre esprit aussi. Puis si on va sur notre téléphone, moi, des fois, je le sens, c'est comme, on dirait, une décharge énergétique qui va de ma face dedans le téléphone, qui se perd. Instantanément, on dirait que I'm feeling like 20% more depleted almost instantly. Puis je suis comme, merde, je me suis encore fait avoir par le bidule, comme, shit. Donc, on essaie de le garder sur le mode avion. Et là, le rituel de faire mouvement, léger, respiration, méditation dès que je me lève. Des fois, c'est juste 5 minutes, des fois, c'est 10, des fois, c'est 30. Mais je crois que de prendre un petit moment pour soi, pour être dans son corps, pour être dans son esprit, avant que le monde nous dise « ça, c'est important, ça, c'est important, ça, c'est important, ça, c'est important. » Pendant les 5 premières ou les 10 premières minutes de ta journée, tu te mets la main sur le cœur puis tu dis « ça, c'est important. » Puis de prendre du temps pour arriver dans son propre corps, dans sa journée, et de visualiser ce qui nous attend aujourd'hui et comment la meilleure version de toi va marcher à travers toutes ces étapes-là. Puis ça permet d'être plus en contrôle parce que t'es comme « OK, j'ai une vision claire de qu'est-ce qui est aujourd'hui, qu'est-ce qui est important, puis je sais où je m'en vais. » Dans le fond, fait que je prends toujours du temps pour faire ça. Ensuite de ça, j'ai un chiot ici. Donc, souvent le matin, on va marcher un peu sur la plage. C'est un chiot, donc c'est quand même un nouveau rituel pour moi d'aller marcher avec mon chien sur la plage. Mais j'aime vraiment ça. Puis ça me permet de... Souvent, j'écoute... Ben, si j'ai un appel à faire, comme j'en profite pour comme prendre ce temps-là pour parler avec quelqu'un avec qui j'avais envie de parler. Ou présentement, j'écoute un livre audio. J'aime vraiment ça, c'est un bon moment pour écouter un podcast ou écouter un livre audio. Puis en même temps, I'm in the world and it's nice to see that there's a bigger world out there. Et après ça, le matin, j'adore faire mon mouvement en premier, soit aller courir, aller surfer, m'entraîner, je vais souvent nager dans l'océan aussi. Donc, première partie de la journée est très dédiée au self-care, en fait. Puis avant, comme j'ai dit, que tout le reste qui me consume s'attaque à moi. Généralement, je vais m'asseoir à mon ordinateur vers 10h, 10h30, 11h. Ça dépend aussi comment que le bon est le surf. Fait que des fois, c'est à 2h de l'après-midi. Mais après ça, je m'assois à l'ordinateur et là, je travaille sur les différents aspects de la compagnie ou bien quelconque projet sur lequel je travaille présentement. Et entrepreneur, c'est de porter plusieurs chapeaux. Et donc, j'ai l'impression qu'au niveau du travail, tous les jours sont différents par rapport à c'est quoi les tâches que j'ai à faire, puis c'est quoi le focus du moment. Donc, c'est beaucoup par projet qu'on fonctionne, puis par saison. Et j'aime cet aspect-là qui fait que c'est ever so changing au niveau du boulot. Et après, j'essaie de toujours aller prendre un petit moment pour aller voir le sunset, donc le coucher du soleil, qui est ici une activité en soi, que d'aller voir le coucher du soleil. C'est un bon moment de faire une pause, de faire le point. Souvent, quand même, en soirée, je travaille encore un peu. Je me sens beaucoup plus focus le soir. Fait que si dans la journée, j'ai pas réussi à être très productive, ce qui arrive quand même souvent, parce que ici, fait que c'est très, très chaud. Fait que des fois, tu te sens tellement abattu par la chaleur que souvent, c'est le soir, je vais être hyper créative. Donc, je me permets de pas me cadrer par le fait qu'il faut absolument travailler les jours de semaine ou absolument les week-ends. Il faut pas travailler les week-ends, il faut pas travailler les soirs, whatever. Mon horaire est très flexible, plus en fonction de quand je me sens inspirée ou quand je me sens productive. Puis des fois, c'est le samedi. Puis des fois, c'est le soir. Puis quand je sens que genre, là, ça, j'ai tu sais, mon esprit est clair, j'essaie d'en profiter pour optimiser ces moments-là, puis les autres moments où je suis pas capable de me focusser, ben j'en profite pour aller jouer dehors. En bref, puis c'est un peu comme ça que les journées flottent la majorité du temps.
So good. Merci beaucoup. On arrive à la fin de l'interview, mais avant de finir, j'aimerais savoir tes 3 meilleurs conseils pour les femmes qui nous écoutent pour mettre cap sur leurs rêves. Tes 3 meilleurs conseils pour finir.
Une phrase qui est restée aussi avec moi depuis le début, qui disait, qui vient pas de moi, mais que j'ai souvent écrit sur mes mes journaux et tout, qui dit « Be fearless in the pursuit of what set your soul on fire ». Donc, s'il y a quelque chose qui t'anime, qui t'excite, que c'est toujours ça que tu as le goût de faire ou de parler, suis ça. C'est ça ton truc, tu vois. Comme, essaie pas de chercher c'est quoi ton truc, c'est ça ton truc, en fait. Puis, moi, j'ai toujours, on s'en fout, c'est quoi, pas on s'en fout, mais dans le sens que si tu tripes sur les Legos, suis ça, comme, deviens niche des Legos, comme, whatever it is, on a tout quelque chose qui nous fait triper, puis ça vaut la peine de suivre ça, puis de mon background, puis de mon environnement dans lequel j'ai grandi, si j'avais dit à l'orienteur à l'école que je voulais vivre du surf, on m'aurait ri en pleine face. Il n'y avait rien autour de moi qui menait à croire que ce serait réaliste que j'allais faire une carrière autour du surf. Mais j'ai suivi ça. Et si tu suis tes élans, tes passions, tes désirs avec assez de dédication, c'est quelque chose qui va s'ouvrir, il y a quelque chose qui va fonctionner. Il n'y a pas d'autre compas qui est plus vrai que de suivre ce qui nous allume. Puis on va jamais regretter non plus d'avoir suivi ce qui set our soul on fire, qu'est-ce qui met en feu. Ma traduction est horrible, mais qui met le feu. Exactement, qui met le feu à notre âme. Donc, de suivre ça, même si on nous dit que c'est irréaliste ou que c'est risqué, je crois qu'il y a rien dans ce beau monde de grandiose qui a été réalisé par des gens qui sont restés réalistes, en fait. Puis, beaucoup de gens sont limités par la peur, puis par le code, puis par tout ce qu'on nous dit qui est standard de faire. Mais je vois aussi beaucoup de gens qui ont suivi le chemin standard qui sont très malheureux. Donc, est-ce que c'est pas la chose la plus périlleuse, en fait, ou la plus risquée que de pas suivre ses envies? Tu sais, si on nous dit, je pense que le risque est illusoire, en fait, parce que les gens, ils se tournent la cheville en faisant des sandwichs dans leur cuisine. Comme, du risque, la plupart des accidents se produisent dans des trucs hyper banals. Puis on l'a tout déjà observé autour de nous, en fait. Donc, à partir de ce principe-là, moi, je me suis toujours dit, le plus grand risque, c'est de pas suivre ses envies. C'est de pas oser. Parce que on est très, très à risque de terminer malheureux et de se sentir vide, incomplet, puis de se demander à quel moment on n'a pas pris le bon virage. Ben, à quel moment tu n'as pas pris le bon virage, c'est quand tu as décidé de taire tes envies, puis de pas croire que tes rêves étaient possibles, puis que tes envies étaient sensées.
Oh my God, burst of inspiration! J'adore, j'adore, j'adore. Merci. Pour finir, on en parlait juste... Enfin, tu en parlais avant. Finalement, il y a certains projets qui te stretch, qui te font sortir de ta zone de confort. Toi, tes prochains projets, c'est quoi?
Oui! J'ai l'impression que ce podcast arrive au bon moment parce qu'en fait, je suis en train de terminer de rédiger un livre en français. qui est un défi pour moi d'écrire en français parce que t'as sûrement vu dans mes textes, j'écris beaucoup en anglais et la compagnie est en anglais. Mais évidemment, je suis d'origine francophone. Donc, oui, un livre sur le surf qui, on n'a pas le titre officiel, mais ça va être un peu, en fond, destination, secret et astuces d'un mode de vie mystique. Donc, on présente les bases du surf ainsi que 8 destinations de surf en présentant 3 spots qui sont accessibles pour les débutants ou les intermédiaires. Donc, on s'adresse vraiment aux gens qui sont curieux par rapport à la pratique de ce sport, qui ne sont pas des connaisseurs nécessairement. Et à travers ce livre-là, je parle aussi beaucoup du mindset et des réflexions que j'ai eues dans la dernière décennie en ayant choisi de vivre à l'extérieur du système. Et d'organiser ma vie autour du surf parce que c'est évidemment ça nous mène naturellement loin de la civilisation, ça force un retour à l'essentiel, une connexion avec la nature qui est vraiment différente. Donc c'est le projet qui est en cours en ce moment, donc ça va sortir en mars 2025. qui va être publié au Québec, mais aussi disponible en France, puisque ce serait un bouquin francophone. Il est principalement illustré par notre designer graphique, Pauline Mathieu, qui est française. Donc, c'est elle qui est la principale photographe sur le livre. Ce sera un livre qui est, on pourrait dire, à mi-chemin entre un guide alternatif de voyage et un coffee table book. Donc, qui se veut aussi très esthétique comme livre. Donc, ça, c'est le plus gros projet présentement qui occupe mon temps et mon esprit.
Trop hâte de le lire. Erika, ça a été un plaisir de t'avoir sur le podcast. Merci pour tous les partages que tu as faits. Je repars vraiment boostée et je suis sûre que les femmes qui nous écoutent également. Et puis, si vous ne suivez pas encore Erika, vous pouvez la retrouver sur Instagram. C'est Erika_Drolet. Et je mettrai en lien dans la fenêtre de l'épisode toutes les ressources dont tu as parlé, The Salty Club, les retraites, et puis le lien vers le livre quand il sera sorti. Un grand, grand merci, Erika, pour cette belle interview et tous tes partages.
Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi aussi de partager ce petit slice de mon esprit et de ce qui m'enchante.
Ok. So, faisons un petit débrief. Qu'est-ce que vous avez adoré dans l'épisode? Qu'est-ce que ça a éveillé en vous? N'hésitez pas à venir nous en parler dans la fenêtre Instagram de l'épisode. Mettez un commentaire ici, Erika et moi, on adorait savoir ce qui vous a le plus parlé. De mon côté, je ressors inspirée de cette conversation. Je me dis, waouh, il y a des femmes dans ce monde qui se la donnent. Il y a des femmes qui sont powerful et qui à la fois sont sexy, qui peuvent à la fois cultiver tout un côté yin, genre, il va falloir qu'on réavoie Erika sur le podcast, I'm sure. Et si vous êtes sur ce chemin de création de vos rêves, si vous galérez, si vous êtes au début, si tout ça, ça vous paraît loin, take a breath, step by step. Là, on partage avec vous aussi, Erika partage des années qui se sont passées, et moi aussi j'en suis aujourd'hui là parce que I didn't have an overnight success. Hein, je sais que sur Instagram, et puis de temps en temps, on entend cette personne qui en un an a fait 1 million d'euros. And that's wonderful. That's so great, but that's not everyone's story. Reste dans ta ligne et crois en tes rêves. Et avant de terminer ce podcast, alors ça serait génial si le podcast et les épisodes te plaisent, si tu pouvais te rendre sur l'application Apple Podcast et me laisser 5 étoiles. Et un commentaire écrit, ça aide vraiment à faire vivre le podcast, à avoir des interviews de ouf comme Erika Drolet, comme Christian Junot et comme tant d'autres encore qui ont été là. Donc merci beaucoup si vous l'avez déjà fait. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour vous assurer de ne manquer aucun épisode. Comme toutes les semaines, ma belle, j'espère que tu vas bien. Continue à croire en tes rêves. Tout est possible. Je suis vraiment convaincue de ça. Tout est possible. Ça a été un plaisir d'être avec toi aujourd'hui et je te dis à la semaine prochaine.